Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Ali Etovine et Constance Le Squillère. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous clôturons cette série consacrée à l'univers de la banque. Cette semaine, nous avons traversé les siècles aux côtés des financiers du roi, tenté de résoudre la crise de la zone euro avec la Banque Centrale Européenne et interrogé les relations entre les banques et l'économie réelle. À présent, tournons-nous vers l'avenir. À quoi ressemblera la banque de demain ? L'arrivée sur le marché des fintech, ces startups de la finance, bouscule les établissements de crédit, bien obligés de s'adapter à cette nouvelle donne. Alors comment les nouvelles technologies ont-elles transformé le secteur de la banque? Qui sont ces nouveaux acteurs? Et comment les établissements historiques peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. La grande transformation du monde de la banque, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons invité Yamina Tajeddine, avec nous en duplex de Nancy, professeure de sciences économiques à l'Université de Lorraine et auteure avec Isabelle Chambost et Marc Langlais de La Fabrique de la Finance, parue aux presses universitaires du Septentrion. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho, présentées par Arjuna Andrade, et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Yamina Tajeddine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour bien comprendre les défis qui attendent ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, ce qu'il faut expliquer, c'est que la banque traditionnelle joue un rôle central dans la société. C'est en cela qu'elle est, selon vous, une institution totale au sens d'Erving Goffman ?
Alors effectivement, même si le terme est un petit peu fort, puisque Erving Goffman utilisait ce terme pour qualifier des prisons, des asiles ou des couvents. Donc on n'a pas a priori cette idée-là du monde bancaire, mais quand il exprimait et utilisait cette notion-là, c'était pour signaler comment finalement un espace pouvait conditionner les comportements, les mentalités, les habitudes, les façons de vivre, les façons d'habiter, les façons de consommer. Et à ce titre-là, eh bien oui, effectivement, on peut qualifier la banque aujourd'hui d'une institution sociale totale.
Alors quels seraient les aspects qui feraient de la banque une institution totale ?
Eh bien en fait, le premier élément, qui est historiquement sa raison d'être, c'est parce qu'elle contrôle la monnaie. Et la monnaie, avant, eh bien, était, je dirais, surtout contrôlée par l'État, ou bien vous avez aussi des mécanismes de dette privée, comme l'ardoise, qui n'était pas contrôlée par les banques. Mais avec le mouvement de bancarisation qui s'est opéré dans la société française à partir des années 50, sous la volonté de l'État, eh bien, désormais, le contrôle de la monnaie, et par là même de l'ensemble des moyens de paiement, dont les crédits, passe par les banques. C'est-à-dire qu'autrement dit, d'abord le roi avait délégué à la banque centrale, puis la banque centrale a délégué aux banques ce contrôle de la monnaie. Et ce contrôle de la monnaie, il ne faut pas le voir uniquement, je dirais, comme un moment où vous payez, mais beaucoup plus largement comme un moment où eh bien, vous entrez en contact, vous interagissez avec l'autre, parce qu'on est quand même dans une société fondamentalement marchande. Donc si on ne peut pas acheter ou si on n'a pas un RIB à proposer, eh bien, de facto, on se trouve exclu économiquement, mais aussi socialement de la société. Et donc, cette dimension de l'exclusion bancaire est une notion qui est apparue assez tardivement. Disons qu'on avait plutôt l'impression qu'on était avant tout un exclu social. Mais désormais, eh bien, la banque a la possibilité, dès lors que vous êtes un interdit bancaire, à vous interdire l'accès à un certain nombre de liens économiques et sociaux.
Et c'est en cela que, selon vous, les banques exercent cette domination sociale tant sur le quotidien des citoyens que sur les choix stratégiques des entreprises.
Oui, mais encore, il y en a encore une autre encore dimension. Mais par contre, cette dimension-là est cruciale. C'est-à-dire qu'elle a justifié, dans la loi de 2013, sur la loi de séparation des activités bancaires, la création au sein de la Banque de France d'un observatoire sur l'inclusion bancaire, savoir comment obliger les banques à réinclure les individus. Donc on voit que c'est quelque chose de très très fort. Mais, et pour moi c'est encore plus important comme domination, enfin une domination encore plus forte, c'est sur le plan informationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous payez presque tout avec un moyen bancaire, que ce soit la carte bleue, le chèque ou le crédit ou les virements, eh bien la banque connaît vos échanges, vos relations. Et de la sorte, eh bien, si vous êtes un habitué de la taverne à 3h du matin, la banque le sait, si vous payez sans contact. Et raison pour laquelle, eh bien, dès qu'il a fallu chercher à lutter contre les formes de blanchiment ou de terrorisme, et je vous renvoie par exemple au Patriot Act aux États-Unis, eh bien, il est paru tout naturel de demander aux banques qui avaient accès aux comptes d'un certain nombre de trafiquants ou de terroristes de donner de l'information. Et cette information-là, c'est une information qui désormais fait partie de l'arsenal sécuritaire des États.
Alors,
Pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, continuez.
Donc, on voit à ce titre-là que le contrôle par la monnaie eh bien, conduit à aussi à savoir exactement qui vous êtes, avec quel pays vous pouvez échanger, quelles sont vos habitudes de consommation, et par là même, eh bien, avoir une information très individuelle sur vous. Et c'était d'ailleurs, et hier, vous, ceux qui étaient là à ce micro l'ont précisé, économiquement parlant, c'est comme ça qu'on caractérise la banque, comme étant un intermédiaire informationnel, parce qu'elle dispose de cette information privée, et historiquement, elle était la seule à l'avoir.
Voilà, et on va voir justement qu'elle n'est plus la seule et toutes les conséquences que cela entraîne. Je vous propose d'écouter la sociologue Jeanne Lazarus, pour qui la première fracture entre les banques et leurs clients remonte aux années 80.
La dégradation des rapports entre les banquiers et les clients date de ce que les banques ont appelé leur tournant commercial, et en fait ça a commencé au début des années 80. Et c'est le fait que les banques de détail, qui étaient des institutions sociales, des lieux d'encadrement, des budgets, en tout cas quand elles se sont ouvertes au grand public à la fin des années 60, ont, au milieu des années 80 et puis ensuite ça s'est renforcé dans les années 90, décidé qu'il fallait rentabiliser les comptes des clients. Et cette idée de rentabilisation a complètement transformé les relations, tout en continuant à considérer que la banque était une institution. Et donc souvent les clients, et le tourment vient de là, ne savent pas s'ils ont affaire à simplement quelqu'un qui veut leur vendre quelque chose et avec qui ils doivent établir des relations commerciales traditionnelles, ou bien s'ils ont affaire à un endroit où il faut se montrer sous son meilleur jour, être honnête, se laisser voir sous toutes les coutures.
C'est cette ambiguïté de l'institution bancaire que nous décrit ici Jeanne Lazarus, qui explique, selon vous, Yamina Tajeddin, que les clients sont soit progressivement détachés, un désamour progressif.
Alors effectivement, je pense que Jeanne Lazarus, et notamment son livre admirable sur l'épreuve de l'argent, eh bien en fait, montre combien finalement les banquiers ont profité pendant une période relativement longue de cette ambiguïté. C'est-à-dire, autrement dit, la génération de mes parents ou mes grands-parents avait une confiance totale dans le banquier. Et Jeanne Lazarus prend cette image du banquier un petit peu juge. On peut avoir un jugement moral. Attention, c'est pas bien ce que vous faites là. Voir un conseiller, ça serait mieux de faire ça. Et donc, ils avaient en tête cette image-là, alors même que en interne, eh bien, la mission du conseiller était de vendre des produits, quelles que soient finalement les caractéristiques des individus. Et ce clivage très fort entre finalement les attentes, et effectivement en termes d'institutions sociales, vous avez des devoirs sociaux envers les personnes qui viennent vers vous, ce qui était bien le cas de la monnaie. La monnaie n'est pas neutre, n'est pas qu'un camembert que vous vendez en fait. Et en fait, les gens ont perdu cette confiance. C'est-à-dire qu'autant la génération de mes parents ou mes grands-parents avait cette confiance dans le banquier, autant moi ou les étudiants que j'ai sont tout à fait lucides sur la relation qu'ils peuvent avoir avec leur banquier. Et n'ont pas du tout cette relation de confiance, de réputation, qui justement faisait qu'un peu aveuglement, un peu de façon un peu paternaliste, on pouvait suivre benoîtement les conseils du banquier.
Et c'est dans ce contexte, dans les années 90, que sont apparues les fintechs, cette contraction des mots finance et technologie. Comment est-ce qu'elles ont émergé, Yamina Tajeddin?
Alors en fait, le fait qu'on ait une contestation de cette relation bancaire apparaît effectivement d'une certaine façon dès les années 90, dans le moment où on voit apparaître un mécanisme de multibancarisation. C'est-à-dire que les gens, au lieu d'être dans la banque de leur père et de leur grand-père, vont voir ailleurs. Et effectivement, dans les années 90, on voit apparaître les premières banques en ligne. Mais pour la France, c'est relativement un fiasco. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne prend pas.
Pour quelle raison ?
Sans doute, l'attachement encore présent à l'ancienne image de la banque, mais Encore aujourd'hui, hein, la banque en ligne, quand on regardait les chiffres qui ont été publiés par la Banque de France en octobre, c'est 6% des Français. Donc c'est encore très très peu.
Mais 30% des nouveaux comptes, en revanche, et sur l'année 2017.
Et 30% des nouveaux comptes. Mais attention, les nouveaux comptes, ça peut être des gens qui ouvrent un deuxième compte. Donc qui ont quand même un compte dans leur agence. Et ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal en France, à savoir cette attitude des individus, et moi je suis la première représentative, à conserver, moi je suis toujours dans la banque de mes parents, d'accord, donc on m'y a mis petite et je suis toujours restée au même, même si j'habite à Nancy et que c'est dans la région parisienne, mais on a cette forme d'attachement, alors qui commence à changer, mais malgré tout on est très très loin des chiffres américains, où là vous avez pratiquement plus de conseillers bancaires et plus d'agences.
Alors la crise de 2008 a tout de même joué un rôle important dans cette explosion des fintechs. La crise est évidemment la méfiance que cela a suscité envers les banques traditionnelles.
Alors en fait, 2008 est un... Vous avez plusieurs phénomènes. Vous avez la crise, et effectivement vous avez une défiance, avec une critique sociale qui s'exprime enfin vis-à-vis des banques. Et je me rappelle de ce message lancé par Eric Cantona en disant, en gros, si vous voulez embêter les banques, vous avez qu'à retirer tous vos dépôts des banques. Et comme ça, les banques seront bien ennuyées. Ce qui est tout à fait exact. C'est-à-dire que si tous les gens retirent leurs dépôts, on se retrouve face à automatiquement une faillite de la banque. Alors, ce mouvement n'a pas été suivi. Donc, ce qui montre aussi, malgré tout, l'attachement des Français aux banques. Par contre, cette période a aussi coïncidé avec une mutation technologique et donc l'apparition de nouvelles techniques et de serveurs de plus en plus gros permettant finalement de faire le travail que faisait un banquier à un coût très modique et surtout sans nécessiter une administration informatique trop importante. Donc si en 2008 vont apparaître et vont se développer des fintechs, c'est aussi fondamentalement parce qu'on a un dispositif technique qui apparaît à ce moment-là et qui permet une forme de démocratisation des pratiques bancaires et financières.
Alors il y a effectivement les innovations dont on va parler dans un instant, mais aussi le fait que les consommateurs changent de comportement, c'est-à-dire qu'on va finir finalement par préférer gérer ses comptes sur son smartphone plutôt qu'avec un conseiller dans une agence. Et là dans ce cas, cela pose aussi la question du public qui est ciblé par les fintechs, peut-être un public plus jeune.
C'est entièrement vrai. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que 2008, il y a beaucoup de choses. Et le développement du smartphone, la généralisation de l'usage d'Internet, fait que tout le monde va découvrir l'interface de sa banque pour passer des ordres, pour écrire un mail à son conseiller plutôt que de se déplacer. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les milléniums, comme on les appelle, eux, sont nés avec cette technologie et sont tout à fait à l'aise à utiliser cette technologie au quotidien, plutôt que de se déplacer, ce qui est beaucoup plus coûteux pour eux. Mais les générations plus anciennes vont aussi l'adopter. C'est-à-dire que la plupart des travailleurs ont l'usage d'Internet dans leur métier. Et donc, l'utiliser pour soi, pour gérer ses comptes, et finalement quelque chose de tout à fait naturel. Donc ce n'est pas que un élément générationnel, c'est en fait la massification de l'usage de toutes ces technologies et le développement, encore une fois, du haut débit, il participe. Ce qu'il faut voir, c'est toutes les infrastructures derrière, le développement de grands serveurs qui nous permettent de faire transiter un certain nombre d'informations et d'avoir un certain nombre d'informations très rapidement qui y participent.
Alors venons-en à ces innovations qui ont permis aux fintech d'émerger. D'abord la blockchain, cette technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière à la fois transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. La blockchain qui a permis la création du Bitcoin. Écoutons d'abord Alexandre Shashchenko, cofondateur de la start-up Blockchain Partner et président de l'association ChainTech.
Fin 2008, c'est pas non plus anodin comme contexte, c'est la crise financière. Et évidemment, la crise financière, selon moi, a été un terreau très très fertile à ce que quelqu'un arrive en disant « voilà mon idée d'une monnaie qui ne dépendrait pas des banques ni des États ». Alors évidemment, quand on dit ça au moment où il y a une crise financière, mais qui de surcroît, au-delà de la crise financière, c'était une crise de confiance, c'était une crise où les gens ne faisaient plus confiance aux banques. Que font les banques de mon argent? Où est mon argent? Et ça, il y a plein de gens qui ne savaient pas y répondre. Et je pense que certaines banques ne savaient même pas y répondre. Et donc, dans l'idéologie, Il s'agissait vraiment de créer une monnaie. Alors, on peut reprendre le titre même du papier de Satoshi Nakamoto, qui était de faire du cash électronique pair à pair. Et donc, il y a tout là-dedans, c'est-à-dire du cash, donc vraiment une sorte de monnaie qui soit liquide, qui soit très facile à échanger. Électronique, évidemment, on retrouve la dimension numérique, il faut que ce soit la monnaie du monde numérique. Et pair à pair, qui était très important, qui était vraiment le point central, qui était de dire indépendante, c'est-à-dire sans autorité centrale et surtout sans tiers de confiance.
Voilà, donc on entend les circonstances dans lesquelles sont apparus le Bitcoin. En quoi la blockchain a-t-elle révolutionné le secteur de la banque, Yasmina Tajuddin ?
Alors effectivement, alors là, pour le coup, c'est une révolution qui arrive en même temps que la crise. Et encore une fois, on a Internet et un maillage qui nous permet de le mettre en place. Alors, le désir de faire une monnaie sans État n'est pas une nouveauté. Ça veut dire qu'en fait, l'idée d'avoir une monnaie libre est quelque chose que l'on retrouve très partagé par des courants plutôt libertariens. Et il en a existé. Il y a eu des périodes en Écosse, aux États-Unis, où il y a eu des monnaies libres. Donc, autrement dit, l'idéologie n'est pas nouvelle.
Mais la blockchain change tout, en revanche. Alors peut-être que vous pouvez nous réexpliquer en quoi cela consiste.
Alors, en fait, la blockchain est une réelle révolution dans le sens où elle modifie la technique qui permet l'archivage et le suivi, je dirais, des informations et des échanges. C'est-à-dire que quand la banque se crée, comme vous l'avez évoqué lundi dernier, elle se crée en Italie, à Gênes, et elle se crée autour, comme toujours, d'une innovation technique. Cette innovation, c'est la tenue de compte et la comptabilité en partie double. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a et qui va faire la spécificité des banques d'un point de vue technique encore aujourd'hui, c'est le fait que vous allez pouvoir enregistrer une opération d'achat, de vente, de crédit, d'épargne, tout ce que vous voulez. Et cette opération, vous l'enregistrez avec deux éléments. Un qui correspond finalement à la motivation réelle, entre guillemets, de l'événement. Et puis, sa traduction en termes de encaissement, décaissement, de trésorerie. Et ça, la particularité, c'est que cette information sur la nature de l'opération et son mouvement mouvement d'encaissement, ainsi que la personne associée, ce qui correspond à son compte, eh bien cette information, seule la banque individuelle, le guichet de banque, a cette information. Donc autrement dit, la banque, mais aussi le système de paiement, se sont construits sur ce savoir privé, très précis, individuel, que seule a la banque, et derrière, eh bien, vous avez une structure hiérarchique pour faire remonter l'information d'un point de vue agrégé, de l'information du guichet de tel village, vous allez passer au canton, à la région, à la nation, et in fine à la banque centrale.
Alors que la blockchain a un fonctionnement beaucoup plus horizontal.
Exactement. Un fonctionnement beaucoup plus horizontal, mais aussi, donc autrement dit, beaucoup plus partagé, puisqu'il va falloir un réseau, ou mobiliser un réseau pour disposer des informations. Mais aussi, en fait, quand ce qui est enregistré, fondamentalement, c'est la transaction. Le nœud, ce que vous devez décoder quand vous minez, eh bien, c'est la transaction. Et dans la transaction, eh bien, vous allez avoir un individu qui a un code et un autre qui a un code. Par contre, ce que vous allez suivre, par exemple, si on prend le cas du Bitcoin, ce que vous suivez, eh bien, c'est l'histoire de ce Bitcoin. Autrement dit, l'histoire des transactions. Donc, absolument pas l'histoire d'un individu. Donc on voit que fondamentalement, et c'est pour ça que je parle de révolution au même titre que la tenue de compte, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux sur comment la comptabilité a modifié radicalement notre façon de voir les rapports économiques, eh bien la blockchain modifie en finalement installant une connaissance qui est dispersée, d'accord, et en même temps où le suivi va se faire à partir d'une transaction. Alors je précise, pour en avoir discuté avec pas mal d'informaticiens, que contrairement à un mythe, l'anonymat n'est pas garanti. On peut remonter aux deux personnes qui ont mis leurs clés, même si elles sont sécurisées, on peut remonter aux personnes. Donc, on peut casser l'anonymat. Par contre, vous n'allez pas avoir aisément un solde par personne. Par contre, vous pouvez suivre une transaction. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, on a un nouveau procédé qui peut être un nouveau support pour la monnaie, mais aussi pour plein d'autres événements. Et ce support-là, eh bien, actuellement, on considère qu'il peut être mieux sécurisé que, par exemple, une tenue de compte. Alors, mais en soi, pardon, excusez-moi, c'est véritablement une façon de concevoir la circulation de l'information et de la connaissance qui change radicalement.
Alors c'est une première innovation absolument essentielle et il y en a une autre qui remet également en cause peut-être le modèle traditionnel de la banque, c'est le big data. Avec le big data, la banque n'est désormais plus la seule justement à pouvoir collecter des informations privées. Les GAFA, les géants du numérique, le font finalement beaucoup mieux, Yamina Tajedine.
Beaucoup mieux et surtout avec une quantité d'informations qui est juste gigantesque. C'est-à-dire que la grande force des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc., c'est qu'en fait, ils ont une quantité d'informations individuelles, c'est toujours ce point-là qui est important, savoir une information sur un individu, colossale et beaucoup plus importante que n'aura jamais les banques. La banque, on avait déjà pas mal, mais il fallait quand même consommer, acheter et vendre. Par contre, elle ne pouvait pas savoir si vous aimiez le sport, les spaghettis, etc. Sur Facebook, on a ces informations. Sur Instagram, quand vous aimez une photo, eh bien, on a immédiatement, on peut déterminer qu'est-ce que vous aimez, si vous aimez plutôt Trump ou si vous êtes plutôt Barack Obama, etc. Donc en fait, on a une information individuelle sur une gamme de choses beaucoup plus grande que ce que n'aura jamais les banques.
Et donc toute la question, c'est comment les géants du numérique vont se servir ensuite de ces données pour concurrencer les banques.
Ben, effectivement, puisqu'en fait, finalement, l'intérêt pour les GAFA de disposer de ces informations, elles en stockent énormément, ça coûte de l'argent, donc il faut les rentabiliser. Donc, elles les rentabilisent en vendant une partie de ces informations. En France et en Europe, on est beaucoup plus protégés que dans d'autres pays. Aux États-Unis, ces informations, depuis très longtemps, sont vendues. Hein. Avant même qu'il y ait les GAFA, on avait déjà des ventes de bases de données. Là, on en a une quantité astronomique. Hein. Par exemple, je vais juste vous donner un chiffre, mais qui est quand même assez édifiant. En une minute, eh bien, vous avez 350 000 tweets dans le monde qui sont échangés, et vous avez 216 millions de photos qui sont émises sur Facebook. C'est juste hallucinant. C'est colossal. Donc, vous avez toutes ces informations, vous les vendez à ceux qui en ont envie, et puis après, malgré tout, une des activités qui reste la plus rentable, ce sont les activités liées au métier de l'argent. Donc, effectivement, on peut revendre ces données, c'est déjà fait. Au bout d'un certain moment, comme on fait les banques, on peut se dire, pourquoi pas utiliser ces informations pour, par exemple, avoir une notation de crédit très fine sur les capacités des individus à rembourser leur crédit. Et effectivement, on voit bien que, par exemple, les dispositifs, alors que je déplore tout à fait, n'étant pas une grande sportive, de mesure de combien vous courez, pendant combien de temps, ou pour les gens de contrôle de calories, etc., mais c'est une mine d'or pour estimer la probabilité que vous aurez de ne pas rembourser votre crédit. Parce qu'on peut imaginer que la personne qui ne pratique pas du sport, qui boit énormément et qui mange très gras, a une espérance de vie beaucoup plus courte.
Et alors justement, c'est peut-être pour cela que l'accès aux données est au cœur d'un bras de fer entre les banques d'un côté, les start-up de la fintech de l'autre, notamment autour de la directive européenne sur les services de paiement, la DSP2, entrée en vigueur il y a un an. Il y a un bras de fer important auquel on assiste aujourd'hui, Yamina Tajedine.
Eh bien, les banques sont évidemment réticentes à donner les données qu'elles ont, donc sur les mouvements de décaissement, encaissement des comptes. Puisque une fois que vous avez ces informations-là, évidemment, pour les GAFA, elles peuvent faire le même métier que la banque, en mieux. Donc, au niveau de l'Europe, désormais, il y a une obligation. Alors, cette obligation vient, il faut malgré tout que le client fasse sa demande. Voilà, donc on a quand même une petite protection du consommateur. Et évidemment, alors outre que les banques signalent que, comme elles, et ce qui est vrai en plus en interne, qu'il y avait une politique de secret très fort des données individuelles, et donc résultat, en termes de technique, c'est un peu compliqué pour eux, elles, de réattribuer les noms et de collecter toutes les informations. On va dire ça, c'est un peu coûteux et c'est résolvable. Et puis, effectivement, eh bien, elles savent pertinemment qu'une fois que vous aurez ces informations-là, eh bien, des nouveaux services vont être proposés. Et sans doute, une fois que vous avez ces données complétées à d'autres, alors par exemple, je donne un exemple parce que c'était le cas d'une une fintech ici en Lorraine, en fait, qui voulait croiser avec la consommation d'énergie. Voilà. Donc, vous avez des données que vous récupérez d'EDF, vous avez des données que vous récupérez de la banque, et après, vous faites des propositions sur aussi bien des propositions de contrats financiers, mais pourquoi pas des contrats d'énergie plus adaptés à vos mouvements d'encaissement, décaissement, etc. Donc on voit que le gros avantage d'avoir des données bancaires, c'est qu'effectivement vous allez pouvoir profiler des services financiers, principalement du crédit, avec une précision très fine et en ciblant les individus qui vous semblent les plus rentables et en excluant les autres. Chose que ne peuvent pas faire les banques aujourd'hui.
Alors oui, et puis il y a une troisième innovation qui a bouleversé le paysage de la banque, c'est l'intelligence artificielle. Je vous propose d'abord d'écouter Nicolas Sekaki, il est directeur d'IBM France, IBM qui a donc développé l'intelligence artificielle Watson.
L'intelligence artificielle va permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire autrement. Et il va pouvoir, sur certaines tâches, remplacer l'homme. Mais l'objectif n'est pas de remplacer des tâches, l'objectif est de voir qu'est-ce que ça peut créer de nouveau. Sur le conseiller, par exemple, nous avons travaillé avec et pour le conseiller. Comment lui libérer du temps et lui permettre d'avoir un travail de meilleure qualité pour servir mieux son client. En aucun cas, il est là pour remplacer le conseiller. Mais ce qui est important, c'est les sous-jacents business. C'est les banques doivent se transformer. Cette technologie-là va leur permettre de se transformer. Sans cette technologie, vous retrouvez avec une équation où vos clients ne viennent plus vous voir et vous n'avez pas de nouveaux services à leur proposer. C'est de nouvelles industries qui vont se créer. L'intelligence artificielle et Watson apportent la connaissance au plus grand nombre. Avec l'Internet, on avait l'accès à l'information au plus grand nombre. Et ça a tout changé. Internet a permis à des start-up françaises de pouvoir exporter dans le monde et d'être connues. Et bien, Watson va permettre de diffuser cette connaissance auprès de tout le monde. Et donc, nous allons pouvoir bénéficier de cette connaissance. À nous de savoir ce que nous voulons en faire.
Voilà les mots du patron d'IBM France, interrogé par Les Échos en mai 2017. Yamina Tadjedine, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a changé au métier de banquier?
Alors, précisons tout de suite qu'on prend on utilise le terme intelligence artificielle en pensant qu'il s'agit véritablement d'intelligence. Il s'agit de programmes très puissants, mais il s'agit de programmes. Ce sont des programmes qui parfois peuvent apprendre. Mais il n'en reste pas moins qu'il va falloir qu'il y ait derrière un individu qui a codé. Et ce point est très important, puisqu'en fait on voit que dans l'intelligence artificielle, derrière concrètement qu'est-ce que l'on a, on va avoir des algorithmes. Et des algorithmes à qui on va demander de réaliser une certaine fonction qui, avant, était organisée par l'homme ou pas organisée parce qu'il ne pouvait pas le faire faute de capacité cognitive. Mais en tout cas que l'homme aurait peut-être souhaité le faire. Donc, ces programmes, eh bien, finalement, ne sont qu'un progrès, je dirais encore une fois, par exemple, de techniques ou de dispositifs qui existaient déjà dans les banques. Et par exemple, si je prends mon mathématique autour du crédit, eh bien, depuis longtemps, vous avez ce qu'on appelle des modèles de scoring qui permettaient de classer les individus suivant des caractéristiques, revenus social, patrimoine, lieu d'habitation, métier, tout ce que vous voulez, et après, de ces catégories, juger de l'opportunité ou non de leur faire un crédit. Aujourd'hui, on a des outils qui sont plus puissants que ces modèles de scoring, mais au fond, on est dans le même registre, c'est tenter, pour cette catégorie de programmes, de classifier les individus, et plus vous les classifiez, plus finalement vous pouvez anticiper leur comportement, leur niveau de risque, et donc, de la sorte, anticiper à plus ou moins long terme quel sera votre chiffre d'affaires.
Mais là où ça entraîne de grandes transformations, Yamina Tadjedine, c'est tout de même dans les métiers. Est-ce qu'on va vers un monde où il y aura un monde de la banque, où il y aura de moins en moins de commerciaux? Est-ce que c'est un métier qui va disparaître? Et est-ce qu'en revanche, l'activité de conseil va redevenir centrale?
Alors, donc là, on parlait de Watson. Il s'avère qu'il y a une enseigne, hein, le Crédit Mutuel, qui a adopté le logiciel Watson. Donc en fait, on ne le sait pas nécessairement. Quand on téléphone ou quand on écrit des algorithmes au Crédit Mutuel, quand vous écrivez des mails au Crédit Mutuel...
C'est traité par des algorithmes de Watson.
Exactement. C'est traité par un algorithme de Watson. Donc on ne le sait pas, on s'en rend même pas compte. Très souvent, il y a la signature de votre conseiller. Et ce que fait le logiciel concrètement, c'est que, par exemple, quand vous écrivez des mails, suivant, il va avoir une reconnaissance sémantique, et donc il reconnaît les mots qui sont à l'intérieur, ou bien vous avez fait un menu défilant avant qui vous a permis de vous mettre dans une catégorie, et il va juger de l'opportunité ou non de faire suivre ce mail à votre conseiller. Donc parfois, ça va être votre vrai conseiller qui va reprendre la main, et puis d'autres fois, pour des réponses finalement assez routinières, eh bien, il peut vous répondre à la place du conseiller. Et donc ça existe déjà, effectivement.
Est-ce que cela va entraîner des licenciements massifs? Finalement, il y aura besoin de beaucoup moins de conseillers?
Alors, ça a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, de plans. Donc je renvoie, vous avez eu BNP Paribas, hein, qui en, dès 2016 a annoncé, a communiqué là-dessus en disant que d'ici 2020, ils allaient investir 3 milliards pour transformer le métier bancaire. Société Générale, alors j'ai repris pour préparer cette séance une annonce qui avait été faite par Frédéric Oudéa, donc directeur général de la Société Générale, auprès des Échos le 27 novembre 2017, et il dit, je le cite, « Il nous faut être une banque totalement digitale pour le bénéfice de nos clients et nos collaborateurs ». Donc effectivement, en fait, ce qu'on a là, c'est un discours somme toute assez classique de dire, eh bien, cette technologie va rapporter à tous, aux clients en gain de temps, et puis dans le fait que vous pouvez avoir une information de qualité rapide, et une réponse rapide à vos demandes de crédit par exemple, et du côté du collaborateur, eh bien le fait que finalement, se déchargeant d'un certain nombre de tâches routinières, il va pouvoir prendre plus de temps pour des dossiers qui nécessitent un suivi et un regard plus approfondi.
Mais en termes d'ampleur, certains disent par exemple que le monde de la banque va connaître ce qu'a connu l'industrie avec la désindustrialisation, c'est-à-dire vraiment des licenciements de très très grande ampleur. Est-ce que c'est ce que vous voyez également, Yamina Tadjedine?
Alors, je vais dire du vécu, puisqu'en fait, moi, ça fait à peu près 15 ans que j'interviens dans des formations pour former les conseillers bancaires. Et ce qu'on observe, c'est une montée en gamme. C'est-à-dire que avant, le métier bancaire, c'était Bac plus 2, donc BTS, énormément de BTS banque. Aujourd'hui, le métier de BTS banque était destiné à finalement occuper la fonction d'accueil dans les banques. Donc la personne qui allait récupérer les chèques, récupérer des espèces, etc. C'est vrai que ce métier a totalement disparu. Maintenant, vous avez des bornes automatiques pour le faire. Donc, nous, par exemple, les BTS banques, eh bien, on a pratiquement plus de demandes de contrats d'apprentissage pour les banques, puisque ce métier a disparu. Alors après, on était monté en gamme avec un Bac plus 3, la licence professionnelle conseiller bancaire, alors qui existe encore aujourd'hui. Mais on voit que, de plus en plus, la demande des banques pour un diplôme de Bac plus 3, eh bien, se réduit comme peau de chagrin. Par contre, on a des demandes à Bac plus 4 ou Bac plus 5. Autrement dit, ce qu'on observe dans le métier bancaire, c'est une transformation de la main-d'œuvre avec, et c'est des choses qu'on observe dans d'autres secteurs, une montée en gamme. Donc, concrètement, quand on regarde les chiffres pour 2017, par exemple, de l'emploi en banque, effectivement, il a diminué, mais très peu, de moins 1,2%. Ça fait quand même 4000 emplois en moins. Mais on reste quand même à des volumes qui sont, comme je l'ai marqué, je le dis, 366 200 personnes, ce qui est quand même important. Mais quand on regarde qui est embauché, eh bien, les embauches concernent les informaticiens, tous les métiers liés à la conformité, à la cybersécurité, et puis des conseillers bancaires, mais encore une fois, des conseillers bancaires où on monte en gamme.
Yamina Tadjedine, on va continuer à parler de tous ces sujets et du rôle que jouent les fintechs, qu'on en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
My name is Tom Cranker, and I'm a jolly banker. I'm a jolly banker, am I? I safeguard the farmers and widows and orphans, singing I'm a jolly banker, am I? When dust storms are sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker, am I? Check up your shortage and bring down your mortgage, singing I'm a jolly banker, am I? When money you're needing and mouths you are feeding, I'm a jolly banker, am I? I plaster your home with that furniture alone, singing I'm a jolly banker, am I?
bet you have credit. I'm a jolly banker, am I? Just bring me back two for the one I lend you. Singing, I'm a jolly banker, am I?
The Jolly Banker de Billy Bragg and Wilco, et nous poursuivons notre discussion sur la grande transformation de l'industrie de la banque avec Yamina Tajeddine. Alors comment est-ce que les géants du numérique se sont emparés de ces activités traditionnellement réservées à la banque? Ils se sont d'abord spécialisés dans les moyens de paiement, c'est là que ça a commencé, Yamina Tajeddine.
Alors effectivement, eh bien, on a eu la possibilité, si vous voulez, de déposer de l'argent sur le net et après, une fois que vous avez une cagnotte, de pouvoir payer dessus. Donc autrement dit, c'est un dispositif qui n'est pas de création monétaire, puisque la monnaie vient des euros, des dollars que vous avez préalablement dans un compte bancaire, mais que vous pouvez déposer pour des usages de consommation sur des sites.
Et Google a lancé par exemple un service de paiement par mobile, Amazon aussi s'est lancé dans le transfert d'argent. Pour cela, en fait, ils ont bénéficié à la fois de leur image de marque, de l'accès facilité qu'ils pouvaient avoir avec la clientèle. Quels étaient leurs avantages, Yamina Tajeddine?
Alors en fait, quand on regarde les premiers travaux, je me souviens d'un anthropologue qui avait étudié ces mécanismes, eh bien on voyait que, je dirais, pour les individus qui n'ont pas de problème monétaire, finalement, ce dispositif n'a pas fondamentalement une grande utilité. Par contre, pour permettre à des personnes qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir acheter ou consommer, ou acheter ou consommer dans un autre pays, donc par exemple des gens qui sont installés aux États-Unis et qui ont de la famille au Nigeria, eh bien finalement, vous déposez aux États-Unis une cagnotte d'argent, vous donnez votre code d'accès à votre famille, et votre famille, de la sorte, peut acheter finalement librement ce qu'elle veut sur ces sites-là. Et donc autrement dit, vous voyez que c'est un transfert de monnaie qui est totalement gratuit, contrairement aux virements qui peuvent être très coûteux, surtout entre pays. Et en même temps, eh bien, sachant la gamme proposée par Amazon ou l'ensemble des applications, puisque du côté de Google, historiquement, c'était plutôt des services informatiques, mais l'accès à certaines applications et le marché des applications est aussi un marché. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a assisté à une nouvelle forme de flux monétaires internationaux.
La directrice du FMI, Christine Lagarde, a exhorté les startups de la finance lors du Paris FinTech Forum, là, cette semaine, à se tourner vers les populations non ou mal bancarisées et vers les travailleurs qui transfèrent de l'argent à leur famille à l'étranger. On voit que c'est de plus en plus vers cela que pourraient se tourner les FinTech.
Exactement. C'est-à-dire qu'on voit, et d'ailleurs c'est le cas, c'est-à-dire quand on regarde les grands secteurs où se développent les fintechs, une large partie concerne finalement les flux d'argent et de la diaspora. Alors évidemment, cela est d'autant plus facilité quand en plus vous avez les crypto-actifs ou crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'autrement dit, bon là, vous voyez, quand vous déposez l'argent, vous le déposez de façon liée à un site commerçant, que ce soit Amazon ou Google. Maintenant, si vous le faites dans une fintech, eh bien, on a juste le transfert d'argent et la personne, après, peut librement faire usage de son argent où elle le souhaite. Alors, donc, on a une diffusion beaucoup plus aisée et sans contrôle. Alors, encore une fois, l'anonymat, on peut l'avoir. Hein, donc, ce n'est pas un problème d'anonymat. Mais par contre, on n'a pas un contrôle aisé de la circulation des flux monétaires internationaux dans ce cadre-là.
Il y a le paiement en ligne, il y a le transfert de l'argent, et il y a aussi le cœur même du métier des banques, le crédit. Certains géants du net s'intéressent et s'attaquent à cette question du crédit, Yamina Tajeddine.
Effectivement, parce que sur les virements, vous ne gagnez pas d'argent. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Enfin, l'intérêt d'Amazon, c'est d'avoir de nouveaux consommateurs. D'accord. Donc, mais l'argent, vous le gagnez en faisant du crédit. Alors, il faut savoir que le fait que vous ayez des crédits rattachés à des structures qui ne sont pas bancaires est très ancien. Ça veut dire que l'industrie automobile, hein, Ford fut le premier, en France ce fut Peugeot dans l'entre-deux-guerres, hein, donc on est dans les années, fin des années 20, début des années 30, à se dire que si on veut qu'il y ait de la consommation et que les gens achètent des voitures, il faut nécessairement leur donner de l'argent, enfin, leur donner, façon de parler, leur prêter de l'argent. Donc le fait que des industries non bancaires proposent des services de crédit est pour eux une façon d'augmenter leur clientèle.
Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les supermarchés, par exemple, qui proposent, certains d'entre eux proposent aussi du crédit.
Exactement, c'est le cas d'Auchan, Carrefour. Vous avez la possibilité, alors vous pouvez avoir soit une carte où vous déposez de l'argent, d'accord, donc ça, il n'y a pas de création monétaire, mais on peut vous proposer une réserve, donc un petit découvert, ou si vous allez à la fin de vos courses dans un guichet, d'avoir véritablement un crédit conso, comme une banque.
Alors on voit que ces nouveaux concurrents émergent face à eux. Comment est-ce que les banques traditionnelles cherchent à s'adapter à ce nouvel environnement numérique? Je vous propose d'écouter Céline Lazorte. Elle est fondatrice et dirigeante du groupe Litchi, créateur de la cagnotte en ligne litchi.com.
Alors je ne sais pas si la banque de papa c'est fini, mais en tout cas aujourd'hui la banque connaît une transformation parce que ça y est, il y a des outils comme Litchi ou d'autres qui viennent effectivement un petit peu les challenger. Et je crois que c'est bien parce que quand il y a de l'innovation, eh bien il y a des prix plus bas, il y a des nouveaux services. C'est une nouvelle banque. Quand vous ne payez pas un service, c'est que vous êtes le produit. C'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de services sur lesquels vous ne payez pas l'utilisation, pas uniquement dans la cagnotte en ligne, mais donc vous êtes le produit. Donc cela signifie, c'est que effectivement vos données vont être vendues, vous allez recevoir de l'email. C'est un modèle différent. Nous, on croit au fait que nos utilisateurs, leur valeur, elle est dans l'utilisation du service de Litchi et qu'on ne doit pas vendre leurs données. Donc effectivement, on fonctionne de cette manière.
Un extrait de l'émission N'arrête pas l'écho sur France Inter du 28 janvier 2017. Alors face à ces nouveaux venus comme Litchi qui a été racheté par BPCE, comment est-ce que les banques historiques s'adaptent? Ça peut être par la coopération ou par le rachat finalement, Yamina Tajeddine.
C'est vrai que les banques en fait ont été menacées, c'est-à-dire que ce soit Litchi ou d'autres fintechs, je pense aussi au compte Nickel par exemple, c'est des fintechs qui se sont mises sur des niches pas utilisées par la banque. Alors soit parce que c'était une clientèle qui ne les intéressait pas, trop pauvre, trop risquée, soit parce que derrière il y avait des projets à financer que les banquiers estimaient peu intéressants, comme des projets culturels. Et donc, dans ce cadre-là, aussi bien du côté finalement des deux côtés des utilisateurs, hein, soit que vous déposez de l'argent, soit que vous voulez emprunter, il y a eu une impossibilité de pouvoir disposer de ce service-là. Et les fintechs, en fait, ont pu se positionner sur ces niches parce que précisément, elles ont pu utiliser ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir ces nouvelles technologies, et notamment Big Data et intelligence artificielle, en utilisant les capacités d'Internet pour mettre en relation et toucher des individus par la même, ont pu se reconnaître dans des valeurs, dans une communauté, et finalement se dire, pourquoi ne pas plutôt passer pour mes services de paiement, mes services bancaires, mes services de crédit, vers des entités qui sont en adéquation avec mes valeurs.
Sauf que ça a inquiété les acteurs historiques du marché.
Alors, les acteurs historiques, ils ont tous racheté, hein, c'est-à-dire que Litchi, comme vous l'avez dit, a été racheté par BBCE, les comptes Nickel par BNP Paribas. Donc, alors que ce qui est assez marrant dans les créateurs du compte Nickel, c'est vraiment c'était contre les banques. Donc, les banques ont racheté et sont en train de racheter pratiquement la plupart des fintechs, de moins en moins indépendantes.
Ce qui pose la question du côté des fintechs, quels avantages elles y trouvent dans le fait d'être rachetées?
Disons qu'en fait, le problème, c'est que vous avez un modèle qui est quand même très coûteux en investissement. Ça veut dire que on a, malgré tout, même si c'est de la technologie, c'est des algorithmes, on peut dire que c'est pas une grosse usine que vous construisez pas une agence, vous pouvez être dans un espace coworking, vous êtes 2-3 maximum, donc on n'a pas une grosse masse salariale. Mais malgré tout, quand vous avez à traiter de plus en plus de demandes, il va falloir sécuriser votre plateforme, faire grossir votre plateforme, faire de la communication, etc. Et malgré tout, c'est coûteux. C'est-à-dire qu'en fait, le métier des fintechs, et on a l'impression que c'est pas très cher, mais si, et c'est un espace où actuellement, vous avez des levées de fonds très importantes. Ça veut dire que pour faire fonctionner correctement une fintech, il va falloir que vous ayez des apporteurs de capitaux. Alors, en France, on a des levées de fonds qui restent encore, somme toute, assez modestes. Hein. j'avais récupéré des chiffres publiés par KPMG, ils disaient que pour 2018, on avait eu 365 millions, c'est pas grand-chose. Par contre, quand on regarde des grosses fintechs, comme on peut avoir, pour en avoir en Chine, eh bien là, c'est pas 365 millions qui sont levés, mais c'est 10 milliards, et c'est dans le cas de l'entreprise chinoise Ant Financial. Donc en fait, c'est illusoire de croire que c'est un modèle qui peut exister indépendamment de financement extérieur. Mmh. Donc, une fois que vous avez contacté tout ce que vous vouliez par crowdfunding, les montants levés restent quand même modestes, vous pouvez vous adresser aux banques, et dans ce cas-là, les banques vont vous dire « Ok, mais dans ce cas-là, on vous rachète, on vous absorbe ». Voilà.
Vous parlez du crowdfunding, Yamina Tajedine, et justement, le financement participatif semble bénéficier particulièrement à l'économie sociale et solidaire. On parle toujours donc des avantages que les fintechs offrent par rapport aux acteurs traditionnels que sont les banques. Écoutons les explications de Florence de Maupoul, la directrice générale de l'association Financement Participatif France.
La transparence et la traçabilité sont des notions qui sont clés dans la finance participative pour donner confiance aux investisseurs et leur permettre de financer l'économie réelle. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de plateformes spécialisées d'ailleurs qui répondent à des enjeux majeurs du financement de l'économie, mais aussi des besoins et des souhaits des particuliers. Donc des plateformes qui sont spécialisées dans la transition énergétique et écologique, dans l'agriculture, dans le vin. Dans l'économie sociale et solidaire, on a de plus en plus d'acteurs comme ça qui se dédient soit à une thématique spécifique, soit à un secteur géographique aussi.
Le financement participatif est particulièrement intéressant pour les entreprises émergentes qui peinent à obtenir des crédits à la banque. Cette exclusion bancaire dont vous parliez tout à l'heure, Yamina Tajedine.
Alors effectivement, et je dirais que effectivement, les fintechs se sont mis sur cette niche. Et avec raison, avec raison. Alors parce qu'il faut savoir que les premières formes de plateformes participatives et de financement participatif étaient plutôt dédiées à des projets culturels, par exemple création d'un CD, d'un théâtre, d'une pièce de théâtre. Et donc, effectivement, c'est des projets qui n'avaient aucune perspective de rentabilité du côté des banques. Et d'ailleurs, les premières formes de financement participatif étaient souvent des dons. C'est-à-dire qu'on n'allait pas vous rembourser ce que vous aviez prêté, par contre, vous auriez une place de théâtre ou vous auriez un CD quand il serait publié. Alors par la suite, aux dons se sont ajoutés des prêts, d'accord ? Donc vous avez eu des plateformes spécialisées sur la mise en relation de projets et d'investisseurs indépendamment des banques. Et la réalité est que l'économie sociale et solidaire, des projets d'économie sociale et solidaire ont pu en profiter. Malgré tout, il ne faut pas non plus trop exagérer l'importance des projets économiques et solidaires et sur un site qui récolte des informations sur le crowdfunding qui s'appelle Statista, voilà, c'est un peu dur à dire. Eh bien, on voit que les projets financés en 2017 par crowdfunding et qui relevaient de l'économie sociale et solidaire, vous n'aviez que 14%. Le plus gros, c'est des très petites entreprises. Et qui dit très petites entreprises, dit bah, précisément, vous montez de la musique et puis bah, ça, c'est une TPE. Donc, la réalité du crowdfunding, c'est réellement, et je salue cette innovation et je la soutiens fondamentalement, parce que je pense qu'elle est essentielle. Maintenant, de croire que grâce au crowdfunding, vous allez financer la transition écologique, c'est impossible.
C'est encore un peu illusoire, et d'autant plus que dans les fintechs qui ont disparu en 2018, 50% en France avaient des activités dans le domaine du crowdfunding en France, selon les Échos. Et plus largement, on sait que les fintechs doivent prouver leur solidité dans la décennie qui arrive, puisqu'on sait que 90% des startups disparaissent avant 3 ans d'existence. Alors ça pose la question, est-ce qu'on pourrait assister à un recul de ces fintechs, Yamina Tajedine, et est-ce qu'on pourrait également assister à un mouvement de retour vers les banques. Si tant est qu'il y a eu un véritable départ massif, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
La réalité est que le risque inhérent à toute activité économique ne disparaît pas avec les fintechs. Et malheureusement, les gens l'ont réalisé. C'est-à-dire que soit vous le faites en donnant, et en donnant vous n'avez pas de retour sur investissement, soit vous le faites en espérant gagner, et dans ce cas-là, comme les banques, vous êtes face au risque de crédit. Et bien peut-être que certains se sont dit « finalement, c'est pas si génial que ça, je gagne pas ». Bah oui, on gagne pas. Mais on gagne pas comme on gagne pas pour les banques, comme on ne gagne pas en finance. Et au fond, malgré tout, ça reste un travail de sélectionner les projets qui peuvent être rentables. Ça reste un travail de pouvoir collecter de l'argent auprès de financeurs. Et ça reste aussi un travail de savoir, nous, en tant qu'épargnants, ce que l'on souhaite financer. Et là, par contre, sur ce volet-là, je pense que ce qu'apportent les fintechs et ce qu'ont apporté le crowdfunding, c'est une forme d'éducation de l'épargnant ou de celui qui a un peu d'argent, de se dire, bah, finalement, est-ce que je le mets dans la banque ou est-ce que je vais le voir ailleurs et pourquoi pas, peut-être que je gagnerai moins, peut-être que c'est moins sécurisé, mais j'ai envie de prendre le risque. Et cette composante de ne pas être lié fondamentalement à cette institution sociale Total, qui est la banque, me semble tout à fait essentiel dans l'arrivée des fintechs. C'est-à-dire qu'elle a permis de réouvrir.
Ce sera le mot de la fin, Yamina Tajeddin. On arrive à terme de cette discussion. Un grand merci à vous. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Pour finir cette semaine, vous avez choisi de revenir sur le processus de succession en cours à la tête de la Banque mondiale.
Mais oui, après avoir évoqué la Banque de France et la Banque centrale européenne, il était intéressant de revenir sur le rôle et le fonctionnement de cette institution internationale qui fait parler d'elle ces derniers jours suite à la démission surprise de son président, l'américain Jim Yong Kim. Une démission d'autant plus fracassante que ce dernier a annoncé à ses équipes qu'il quittait la Banque mondiale pour rejoindre Global Infrastructure Structures Partners, un fonds d'investissement privé de Wall Street où il pourrait, je cite, avoir un plus fort impact sur les grands enjeux mondiaux tels que le changement climatique ou le déficit d'infrastructures. Après avoir passé 6 ans à la tête de la Banque mondiale, Jim Yong Kim a donc fait le constat qu'il serait plus efficace et plus utile dans le privé. Un camouflet pour une institution qui a justement pour mission principale de mener des projets de développement avec une attention particulière portée aux enjeux de pauvreté et de lutte contre le changement climatique. L'establishment international est donc en ébullition pour trouver un digne successeur à ce financier au grand cœur.
On a d'ailleurs cru un moment avoir trouvé la perle rare.
Mais oui, pendant quelques semaines, le nom que tout Washington se murmurait pour remplacer le grand gourou du développement mondial n'était autre qu'Ivanka Trump, la fille du président himself. Une information qui a même été relayée par le Financial Times, réputé journal le mieux informé de la côte Est sur ces questions. Le président américain, qui ne cesse de prêter de glorieux destins à sa prodigieuse fille, a pourtant fini par se rétracter, admettant le risque de se voir accusé de népotisme par ses adversaires, un éclair de lucidité suffisamment rare pour être souligné et salué. C'est donc désormais David Malpass, un haut responsable du Trésor américain, qui est évoqué pour prendre la tête de l'institution, alors même que celui-ci s'est illustré à plusieurs reprises par ses sorties hostiles vis-à-vis des institutions multilatérales.
Il faut dire que le choix du président de la Banque mondiale est tout sauf démocratique.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque c'est de facto le président américain qui désigne unilatéralement le président de cette institution, une règle tacite qui se perpétue depuis plus de 70 ans et qui s'ajoute à un contrôle quasi total de l'institution par les Américains. Alors qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, chaque membre dispose d'une voix, la Banque mondiale fonctionne, elle, sur un système de quote-part où $1 investi rapporte une voix. Les pays les plus riches sont donc mécaniquement surreprésentés, mais contrairement aux actionnaires d'une entreprise, par exemple, les membres de la Banque mondiale ne peuvent choisir d'augmenter leur participation pour accroître leur pouvoir. Un système qui est donc parfaitement verrouillé par les grandes puissances qui peuvent s'assurer que les politiques menées respecteront bien leurs intérêts. Il faut dire que les États-Unis, qui disposent à eux seuls de 15% des votes, ont réussi à imposer un seuil de 85% des voix pour adopter les principales décisions. Une minorité de blocage qui leur permet donc de bloquer toute décision n'allant pas dans leur sens.
Un usage politique de la Banque mondiale qui est régulièrement critiqué, notamment du côté des pays en développement.
Oui, car l'institution pensée pour accompagner la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale s'est ensuite tournée vers le financement des pays en développement, en fixant un certain nombre d'exigences et d'obligations en échange du versement de ces aides financières. La Banque mondiale et le FMI ont ainsi été accusés de servir de leur rôle pour diffuser et forcer la mise en œuvre de réformes économiques néolibérales comme l'ouverture économique et la libéralisation des échanges contre l'accès justement à ces financements. Un rôle politique qui inquiète au moment où le prochain président doit être nommé par une administration ouvertement climato-sceptique et très opposée au modèle multilatéral, à moins que les autres pays ne profitent de ce moment pour tenter de remettre en cause la toute-puissance de la Maison-Blanche, ce qui reste à ce jour encore assez peu probable.
Merci beaucoup Arjuna, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Et comme un jeudi sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Vous êtes venu avec le chiffre du jour, 4 709 milliards d'euros.
Oui, ça fait beaucoup. C'est le total du bilan de la Banque Centrale Européenne le 25 janvier dernier. Autrement dit, la valeur de tous les titres financiers qu'elle possède. Et cela représente 41% du PIB de la zone euro. Ce montant n'était que, entre guillemets, de 1500 milliards d'euros fin 2007. Cela signifie que depuis 12 ans, la BCE a créé ex nihilo 3200 milliards d'euros de monnaie supplémentaire, soit 290 milliards d'euros par an en moyenne.
Alors c'est absolument énorme en effet, mais est-ce que c'était nécessaire? C'est la question qu'on se pose.
C'est absolument nécessaire. C'est en faisant cela que la BCE a réussi à sauver non seulement les banques de la zone euro, mais aussi derrière elle l'économie réelle qui menaçait de s'effondrer avec la plus grande crise économique que nous ayons connue depuis 1929. Nous vivons en effet dans des économies où ce sont normalement les banques privées qui créent de la monnaie en prêtant de l'argent qu'elles n'ont pas en réalité aux ménages, aux entreprises et aux États qui en ont besoin pour développer leurs activités. Or, dans cette crise et dans les années qui ont suivi, ces banques se sont retrouvées avec beaucoup de mauvaises créances sur le dos, avec des ménages qui sont tombés au chômage, des entreprises qui ont fait faillite et qui ne pouvaient plus rembourser leurs crédits. De plus, on leur a demandé de prendre moins de risques et de prêter moins facilement pour éviter de revivre la situation de 2008, quand il avait fallu que les contribuables viennent à leur secours parce qu'elles étaient montrées trop généreuses les années précédentes. Résultat, elles ne prêtaient plus assez pour permettre à l'activité économique de se développer, et si la BCE n'avait pas pris le relais, nous ne serions jamais sortis de la spirale dépressive où nous étions entrés.
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors Guillaume.
Eh bien non, pas du tout, parce que les choses sont plus compliquées. Dans le même temps, on a demandé en effet aux États de réduire partout en Europe le déficit public qu'ils avaient créé au paroxysme de la crise. Du coup, ils ont commencé à limiter leurs dépenses, principalement sociales, et à augmenter les impôts, mais pas en priorité les impôts sur les plus riches pour ne pas qu'ils partent ailleurs, ni sur les entreprises qu'il fallait aider à ce moment-là. Ils ont augmenté surtout les impôts qui pèsent sur les classes populaires et les classes moyennes. Et parallèlement, on a demandé aussi partout de flexibiliser le marché du travail pour faciliter les licenciements tout en limitant les hausses de salaire. Alors que la politique monétaire laxiste de la BCE avait pour première conséquence de remettre à flot les banquiers et les spéculateurs qui nous avaient conduits dans le mur en 2008. De plus, en nourrissant la spéculation, elle a aussi fait monter ce qu'on appelle le prix des actifs, les actions et l'immobilier, accroissant ainsi la valeur du patrimoine des plus riches.
C'est donc une politique, Guillaume Duval, qui a creusé les inégalités.
Oui, beaucoup. C'est l'un des principaux résultats, en effet, de ce déséquilibre massif et prolongé entre d'un côté une politique monétaire laxiste et de l'autre des politiques budgétaires restrictives et des politiques du marché du travail déflationnistes. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que les populistes, comme on dit, montent partout et qu'on assiste à des révoltes du type de celle des Gilets jaunes en France.
Merci beaucoup Guillaume et j'indique pour les auditeurs la une du mois de février d'Alternatives économiques qui est consacrée au retour des héritiers. Merci beaucoup. On se quitte sur Money for Nothing de Dire Straits. Merci beaucoup Yamina Tajeddine, professeure de sciences économiques à l'université de Lorraine, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, le géant des télécoms Huawei est-il le cheval de Troie du pouvoir chinois? On en parle à partir de 14h. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.